Bonjour, bonjour à chacun. Je me sens bienvenu, soyez-le aussi. Et puis, c'est effectivement pas comme d'habitude, même si la naissance de Jésus, rien ne nous empêche et nous ne devrions pas avoir un jour de l'année où nous ne la fêtons pas. C'est clair. Mais aujourd'hui, on en parle un peu plus. Belle cravate, les pieds dans le foin. Il y a du contraste un petit peu comme ça pour Noël. Nous l'avons déjà lu. Je le reprends. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Quelques lignes avant, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Et c'est là qu'on reprend. Elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et c'est là la raison de faire la fête. Dieu avec nous. Mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme si c'était complètement inédit. Dieu, il existe depuis le commencement. Il est là avant que toute chose soit. Il était là avant la création. Il est le Créateur. Et depuis que la création existe et que l'homme est créé, Dieu est là. Dieu est là. Alors ce Dieu avec nous, c'est une nouveauté, mais en même temps, c'est quelque chose qui est d'origine. De toute l'histoire de la Bible, il y a cette cohérence. L'homme, souvent, fait ce qu'il peut pour fuir, partir, être tranquille, se croire libre. Mais Dieu, depuis le début, est là, présent. Il l'a dit depuis le début, « J'habiterai au milieu de vous ». Je vais faire un petit récapitulatif. Dans Exode, justement, on le dit plusieurs fois, mais je vais le prendre ici. « J'habiterai au milieu de vous, au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Un petit peu plus loin, le peuple, donc là c'est l'épisode du peuple qui est dans le désert, qui a fui l'Égypte, et puis qui va construire un tabernacle. Dieu va habiter, tabernacler au milieu de son peuple. Dieu au milieu du peuple. Un peu plus loin, le peuple va se poser dans le pays promis. Enfin, Salomon va construire le temple, qui est l'endroit où nous pouvons adorer Dieu. Et là, on reprend dans 1 Roi, chapitre 6, je vous le lis. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai pas mon peuple. » Il y aura là un sacrifice perpétuel en signe de cette communion de Dieu avec son peuple. Ensuite, des temps tragiques de déportation, de soumission du peuple à un oppresseur, à un ennemi. Et puis cette promesse, elle tient toujours. Zacharie nous dit, au Zacharie 2, « Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Voici, je ferai venir mon serviteur. » Deux points, le germe. Le germe. Le germe. Il y a cette promesse qui n'est pas partie. J'habiterai au milieu de toi. C'est un petit peu dur à comprendre parce que avant dans l'histoire, il dit j'habiterai et puis là, c'est toujours au futur, j'habiterai. Alors qu'il habite quand même au milieu du peuple et puis c'est un petit peu moins vrai. Et il y a de nouveau cette promesse qui tient. J'habiterai au milieu du peuple, j'habiterai au milieu de toi. Et je formerai ce germe, cette espérance qui dure toujours, ce rappel qu'il y a toujours quelque chose qui doit venir. Et puis on le voit, on le sait, toutes ces promesses, elles sont toujours vraies. Mais à chaque fois, l'homme se débat, fait ce qu'il peut pour reporter, repousser, atténuer, oublier, cacher, dissimuler. Mais Dieu, lui, ne se lasse pas. Il dit toujours, j'habiterai au milieu de vous. Et quand il nous promet cette promesse, c'est redondant, mais quand il nous promet ce germe, cette lueur, cette étincelle qui est devant, c'est quelque chose de fort. L'homme le recherche. L'homme recherche cette présence. C'est la grande aspiration de l'homme, du peuple d'Israël, dont on vient de lire l'histoire, mais je pense de chacun d'entre nous. Mais des fois, avec cette idée un peu faussée, moi, mon univers, et puis Dieu aussi qui est là, et ça me rassure. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est pas « j'habiterai au milieu de ton univers ». Dieu a quelque chose, a un projet bien plus grand que ça, bien plus grand. Dieu nous rencontre là où nous sommes, mais pas pour nous laisser là où nous sommes, pas pour nous laisser là où nous en sommes. Dieu nous rencontre comme nous sommes, mais pas pour nous laisser comme nous sommes. Le projet de Dieu, ce n'est pas de se rajouter comme une décoration ou comme une assurance au milieu de notre problème, au milieu de notre vie pleine de problèmes, pleine de doutes, pleine de difficultés. Mais c'est plutôt de nous embarquer pour nous emmener dans son royaume. Ce n'est pas Dieu qui vient dans notre royaume, mais c'est lui qui nous emmène dans son royaume. Ce n'est pas si simple. Je reprends ce qu'on a lu dans Matthieu. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu présent avec nous, il est là. Et puis, juste avant, on comprend, enfin, il y a des choses qui sont données pour comprendre un petit peu les situations. Je lis le verset 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de l'oppresseur romain, comme il a délivré le peuple de l'oppresseur égyptien, ces grands méchants qui vous mènent la vie dure. Ceux qui ont une Bible ouverte ont vu que j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Qui sauvera son peuple, non pas de l'oppresseur romain, non pas de l'oppresseur égyptien, non pas du problème des autres, non pas des autres qui nous posent des problèmes. Il est bien dit là, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notre plus gros problème, ce n'est pas le problème des autres. Notre plus gros problème, ce n'est pas les autres qui nous font des problèmes. Même si on a toujours plein d'idées sur ce que les autres pourraient faire de mieux. Même si on a toujours plein d'idées sur ce que les autres font mal et qu'ils devraient arrêter de faire mal parce que nous, ça nous pose les plus gros problèmes de notre vie. Eh bien non, ce n'est pas les plus gros problèmes de notre vie. Le plus gros problème de notre vie, c'est notre péché. Et le seul problème auquel nous aurons des comptes à rendre, nous créatures, devant le Créateur, ce n'est pas ce que les autres ont mal fait. Ce n'est pas ce que les gouvernements auront mal fait pour nous. Ce n'est pas le mal réellement qu'on nous a fait à nous, victimes. Mais nous tous, nous devons rendre les comptes, nous créatures, devant le Créateur, de ce que nous avons mal fait, nous, notre péché. Et là, la bonne nouvelle, il sauvera son peuple de ce péché-là. Dieu fait homme. C'est ce qui se passe à Noël. Dieu fait homme. Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour se rendre accessible, pour parler notre langage, pour être compris de nous. Si nous entendons depuis le début de l'histoire du peuple, ça fait 2000 ans que nous entendons ça, nous sommes justement à cette période du premier Noël, et ça fait bien plus que 2000 ans que nous entendons « Accourez vers Dieu, il vous aime !» Sautez-lui dans les bras, il vous aime. Mais selon la manière dont c'est dit, ça peut être effrayant. D'ailleurs, quand Dieu s'adresse à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est une montagne tremblante, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a des tremblements de terre, il y a du feu, il y a des nuées. Celui qui touche la montagne est frappé. Comment un Dieu comme ça peut nous parler d'une façon convaincante? Oui, ça nous fait peur. Et là, il y a ce Dieu fait homme qui va parler notre langage, qui va nous dire d'une façon claire, d'une façon pas du tout effrayante. Je suis là, je viens t'aider, je viens t'aimer, je viens te sauver. Le deuxième rôle de ce Dieu fait homme, le plus radical. Dieu vient relever le défi du péché. Chose que ne peut pas faire Dieu lui-même, puisque du haut de sa sainteté, il n'a pas connaissance du péché. Il n'est incompatible avec le péché. Nous, bien sûr que on peut relever le défi, même on le doit. Il est demandé à chacun de relever le défi du péché. Pour sa vie. Mais on n'a aucune chance. Aucune chance. C'est l'échec assuré. Et puis, Dieu fait homme, vient lui-même relever le défi de ce péché. Il accepte de délaisser sa toute-puissance, sa royauté. Oh, il reste Dieu. Mais il accepte de se soumettre à ce qu'est un simple homme, un petit bébé. Il va se soumettre aux 9 mois de la gestation. Il va se soumettre à ce passage excellent, terrible, de l'accouchement. Il va se soumettre aux bons soins d'une maman qui n'a encore jamais eu d'enfant. Il va se soumettre à des circonstances d'accouchement qui sont plus que périlleuses. Maintenant, il n'y a plus de place, du coup, allez là-bas, vous serez au chaud, il y a déjà des animaux, il y a peut-être des gens de passage. Il va se soumettre à la peur, au danger. Dès l'instant, il y a des gens qui vont chercher à éliminer ce roi qui pose un danger au roi actuel. Il y a des gens qui vont rechercher Jésus pour le détruire tout de suite. Il accepte de se soumettre à ce danger, à cette peur. Il accepte de se soumettre à la tentation du péché. Il accepte d'apprendre. Il accepte de se soumettre à cette patience. Il a appris le métier de charpentier avec Joseph. On ne peut pas tout comprendre parce qu'il est Dieu. Et en même temps, il accepte de vivre comme nous, pour qu'il puisse nous comprendre. Il nous connaît, et maintenant, il peut nous comprendre. Il accepte toutes ces choses, par contre, il accepte de se soumettre à toutes ces choses sans se tromper, sans fléchir, sans faillir, être tenté face au péché, sans succomber à la tentation. Cette naissance, Dieu avec nous, dans cette bergerie, elle est accessible pour tous à condition de se soumettre à cette attitude humble. Il n'arrive pas au milieu d'un palais doré, il arrive dans une bergerie, dans une étable. C'est accessible à tous à condition de se soumettre à cette humilité. Les humbles, ce n'est pas des gens parfaits. Les humbles sont des orgueilleux qui se repentent. il se présente aux pauvres. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête, et ce n'est pas que aux personnes qui n'ont pas d'argent. Il accepte de se présenter à tout le monde. Mais il se présente aux pauvres. Les pauvres sont des riches, dégoûtés de leur richesse. Dégoûtés de leur richesse. Je suis le pauvre qui a besoin. Accessible aux simples. Les simples, ce sont les intelligents qui sont convaincus de leur folie. Et nous, nous sommes devant ce choix de l'accueil. Est-ce que nous jouons le jeu de l'humilité, de la simplicité, de la pauvreté pour rencontrer ce Jésus enfant, ce grand roi sous la forme d'un petit enfant, ce créateur tout-puissant sous la forme de cette créature toute frêle, accessible pour tous ceux qui veulent s'y soumettre. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors Dieu avec nous, Dieu présent avec nous. Et puis nous voyons tout d'un coup, dans ce moment, Dieu fait homme, que le Dieu avec nous prend une tournure encore différente. Permettez-moi de lire quelques phrases dans l'épître écrite aux Philippiens, Philippiens 2. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme d'une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Pas un homme forcément costaud, mais là c'est un petit bébé, un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Mais c'est un roi. Pourquoi il devient serviteur? Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, ce Messie qu'on attend, ce libérateur universel, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur. On est bien loin d'une religion. On est bien loin du moyen, du chemin qu'on pourrait créer ou se frayer, nous les hommes, pour essayer d'aller vers Dieu. Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce que l'homme peut écrire d'une religion. Alors peut-être qu'on en a fait un petit peu ça, mais le message de Jésus, c'est Dieu qui vient vers l'homme, Dieu qui relève ce défi et qui va réussir. Je continue la lecture. Rendant obéissant jusqu'à la croix, je continue. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a tout délaissé, sa royauté, sa toute-puissance, sa toute-suffisance. Il n'a besoin de personne. Il délaisse tout pour nous. Parce qu'il nous aime. Et là, c'est Dieu lui-même qui va tout lui rendre. Et puis, la création tout entière qui va lui donner le témoignage. Oui, il méritait tout et maintenant, toute la création lui rend ce mérite. Lui donne l'autorité qu'il avait déjà. Tout le monde va lui donner le témoignage de « oui, tu es Dieu » et rien ne peut s'opposer à toi. Tu as pris ce défi sur toi et tu as relevé ce défi. Dieu avec nous. Dieu avec nous, ça veut dire aussi Dieu avec nous dans le combat. Dieu pour nous. Il vaut mieux que le Dieu Tout-Puissant soit de notre côté. Mais on l'a lu, il vient nous libérer du péché. Nous, pécheurs, nous sommes ennemis de Dieu. Comment Dieu peut être avec nous si nous sommes pécheurs et que nous, pécheurs, nous sommes ennemis de Dieu? Dieu avec nous, c'est Dieu qui prend sur lui le péché. Qui, on l'a vu tout à l'heure, qui s'est soumis à toute cette simplicité, cette humilité, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire jusqu'à prendre sur lui notre péché. Il est dit ailleurs, il s'est fait lui-même péché. Il a connu, il s'est soumis à la honte. La honte, comme ça nous gêne, on passe vite là-dessus. Jésus s'est soumis à la honte du péché. Il a pris sur lui notre honte, notre responsabilité de péché, il a pris sur lui. Et Dieu avec nous, c'est possible maintenant, mais qu'il nous a pardonné. Maintenant qu'il a pris sur lui ce qui nous séparait de Dieu. Dieu avec nous dans sa présence, puis Dieu avec nous dans le combat. Je lis aussi ces phrases magnifiques dans Romains et on comprend mieux maintenant quel sens elles ont. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous ? Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous ? Ah ben, normalement, il devait être contre nous, parce que nous, nous sommes pécheurs, lui est saint. Il devait être contre nous, mais lui a pris notre péché sur lui et il l'a vaincu. Alors, s'il est avec nous, personne ne peut être contre nous. Satan a l'objectif de nous garder vers lui. C'est son but. Pour ça, tout est possible, particulièrement le mensonge. Mais Dieu nous arrache à ce plan normal de Satan. Et il nous dit, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. À condition que nous choisissons, bien sûr. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, rien du tout. Aucune puissance, aucune domination, aucune force, aucune dimension de l'univers ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, puisque c'est lui qui nous le donne. Emmanuel, Dieu avec nous, présent avec nous, de notre côté, dans le combat. Et dans cette histoire, Dieu a déjà gagné pour nous. Il a déjà gagné pour nous. Alors, je suis d'accord qu'aujourd'hui, Dieu avec nous, Dieu présent au milieu de nous, c'est des fois abstrait, mais c'est réel. C'est bien plus réel que beaucoup de choses que nous voyons vraiment. C'est une espérance qui est vraie, qui est sûre. Mais il y a encore des choses qui sont en espérance. Mais c'est là aussi que l'épreuve de la simplicité, l'épreuve de l'humilité prend toute sa force. Jésus, ce petit bébé dans une étable, est accessible à tout le monde. À tout le monde. Pour qui veut bien l'accepter ? Pour qui veut bien croire ces prophéties ? Tout était écrit, très bien, avec beaucoup de précision. Pour qui veut croire, il est là, il est accessible. Pour qui veut croire, Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Depuis le début, Dieu dit « J'habiterai au milieu d'eux ». Ce n'est pas quelque chose qui est tout d'un coup est différent de l'histoire du début. C'est une promesse qui existe depuis le début. Et maintenant que Dieu a déjà gagné pour nous, il nous dit « J'habite en vous ». En vous. La promesse du Saint-Esprit, vous, vous n'êtes pas Dieu, vous, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, mais moi, je suis Dieu, je vais vous donner mon esprit, j'habiterai en vous, en attendant que vous, vous me rejoigniez dans mon royaume au ciel. Ok, sur terre, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est vrai, c'est sûr, c'est même évident. Mais Dieu a eu compassion de nous, il connaît tout ça. Il est venu dans cette simplicité, justement, pour nous donner cette espérance. Un jour, vous serez dans mon royaume. Ce n'est pas moi dans votre royaume, c'est vous dans mon, enfin, vous, nous dans le royaume de Dieu. Ça, je vais le dire comme ça plutôt. Nous, pécheurs, justifiés dans son royaume. Mais en attendant, Dieu présent en nous. La promesse du Saint-Esprit en acte 1-8. Et puis cette promesse, là aussi, on voit que Dieu est cohérent depuis le début jusqu'à la fin, ce qui nous encourage à être cohérent aussi avec lui. Je lis dans Ézéchiel, au moment où le peuple était loin de Dieu, loin par sa désobéissance, loin par son envie d'indépendance, loin par son besoin d'être libre par rapport à Dieu, ce qui est le pire des esclavages, libre par rapport à Dieu. Ézéchiel pouvait déjà écrire « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur » j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu cohérent depuis le début jusqu'à la fin. Et Dieu avec nous, comme ce petit bébé dans cette crèche. C'est la pire des cohérences. On n'arrive pas à la comprendre. Je dis la pire des cohérences parce que c'est le summum de la cohérence, mais on ne la comprend pas. Parce que nous, on attend quelque chose qui ressemble à de la noblesse humaine. Lui prend notre place de perdu, prend notre place de pécheur, prend notre place de faible, pour nous connaître et vaincre. Je dis, c'est l'apogée. L'apogée se fera réellement à la croix. Là, des personnes viennent l'honorer. Le peuple dans lequel il vient va être intrigué, va le suivre et va le crucifier. Tous l'ont rejeté. Tous, par son péché, l'a crucifié. Et c'est à ce moment-là que Jésus a vraiment payé, que Jésus a vraiment donné notre accès au ciel. Et c'est à ce moment-là que Dieu a gagné et qu'il peut nous dire avec au présent, je suis avec vous, de votre côté, dans le combat avec vous. Quand Jésus, quelques années après cette crèche, Jésus va se révéler en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Noël. C'est ça, mais Noël, c'est encore bien plus que ça, parce que Dieu est infini et Dieu veut être présent dans tous les moments et Dieu nous attend dans son royaume pour l'éternité. Noël, c'est tout ça, mais c'est encore bien plus que tout ça. Je prie. Père Céleste, merci pour ton œuvre incomparable. Tu es venu, toi le roi, comme un petit bébé, toi le créateur, comme une petite créature. Tu as relevé le défi sans jamais faillir. Tu as été rejeté, abandonné par tous et tu as payé. Tu as payé pour moi, pour chacun d'entre nous. Seigneur, qu'on puisse te voir, toi le grand roi, dans cette posture de simplicité, d'humilité, pour pour être touché par cette simplicité, pour être touché par cette humilité et t'accueillir vraiment. T'accueillir vraiment dans cette, comme nous le représentons, dans cet endroit à la fois humble et à la fois festif de cette crèche. Seigneur, que nos vies soient cette crèche humble qui puisse accueillir le grand roi, en comprenant tout le trajet que tu as fait pour quitter ton ciel, connaître la difficulté de la terre et être glorifié par toutes les créatures, être glorifié par le Créateur lui-même, être celui dont il est dit plus tard, lui seul est digne, complètement digne. Merci Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas hésité de faire ça pour nous. Amen.